France Inter.
Premier direct du Grand Atelier cette année en extérieur, nous sommes au Festival du Livre de Paris. Venez nous rejoindre si vous êtes près du Grand Palais éphémère dans le 7e arrondissement. Le festival retrouvera le Grand Palais l'année prochaine, une fois les travaux terminés. Un festival où plus d'un millier d'écrivains signent leurs livres que viennent acheter leurs lecteurs, lieu de rencontres, de débats, accueil de la littérature québécoise cette année, marché du livre aussi. Je salue Lydie Salbert qui sort au seuil. Depuis toujours, nous aimons les dimanches. Bonjour Lydie.
Bonjour.
Vous auriez dû rajouter, nous aimons les dimanches à 17h sur France Inter.
Oh, j'ai oublié.
Je vous ai demandé, qui souhaitez-vous à vos côtés? Vous avez répondu la romancière Marie Nimier. Bonjour.
Bonjour.
Confidence tunisienne, c'est le titre de votre livre chez Gallimard. Et puis, la présence d'un jeune journaliste, le Benjamin de ce plateau, Pablo Pio Vivien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Regard et vous intervenez comme chroniqueur politique sur BFM TV face à Charles Consigny chaque vendredi soir dans le match du soir.
France Inter, le Grand Atelier, Vincent Josse.
Bienvenue à tous les trois et bienvenue à tous dans le Grand Atelier qui commence en chanson avec l'impératrice. Le titre, Lydie Salbert, c'est Meda Igual. Ça veut dire quoi en espagnol?
Ça m'est égal.
Ça m'est égal. Mais comment vous dites, Meda Igual?
Meda Igual.
Meda Igual. Je rappelle que votre père était andalou, votre mère catalane et qu'ils ont fui l'Espagne de Franco pour le sud de la France. L'impératrice en direct et en public du Festival du Livre de Paris. C'était l'impératrice sur France Inter, Meda Igual.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Le Festival du Livre de Paris s'est longtemps appelé Salon du Livre. Le premier salon ouvre le 23 mai 1981, 13 jours après la victoire de Mitterrand, qui vient l'inaugurer quelques jours plus tard avec Jack Lang. Lang qui portera un an après la loi sur le prix unique du livre. 1981, je me tourne vers vous, Lydie Salvert, vous exercez le métier de psychiatre. Vous écrivez aussi petit à petit, notamment dans des revues littéraires à Aix-en-Provence, à Marseille. Ça y est, l'écriture est là.
Oui, bien que je sois quarantenaire, donc je dis aux gens qui ont envie d'écrire, il n'est jamais trop tard.
Oui, vous le croyez vraiment ?
Je le crois vraiment. Oui. Cervantes écrit tard, et d'autres.
Et Louis de Funès commence à avoir du succès à 50 ans.
Mais bien sûr, il y a ceux qui écrivent à 15 ans, dont on va parler, je crois, aussi.
Un certain Arthur R.
Arthur R.
Premier livre de Lydie Salvert publié en 90, La Déclaration, où un homme profondément malheureux sombre avant de revenir parmi les vivants. Il y avait déjà, j'allais dire tout Lydie Salvert, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y avait quelque chose qui est important chez vous dans votre plume, une sorte de colère et de rage. C'était déjà en place.
Oui, c'est la colère qui est motrice chez moi. Mais elle se convertit au fur et à mesure que j'écris. C'est ça qui est bien. Je ne m'assieds pas sur la colère.
Ah, ça voudrait dire quoi, s'asseoir sur sa colère?
Ça voudrait dire nourrir une sorte de ressentiment chronique, d'en vouloir à la terre entière, etc.
Vous risqueriez d'être fatigué, d'être toujours en colère, et aussi peut-être de fatiguer le lecteur.
Mais sûrement, sûrement.
C'est pas le cas, hein, vous inquiétez pas. Marie Nimier,
oui.
En 1981, vous ne publiez pas encore, je crois que
non.
Ça commence en 85.
C'est-à-dire, je n'écris pas encore non plus.
C'est-à-dire ?
En 81, si
oui.
J'ai appris à écrire, mais...
Vous chantez ?
Je chante dans les rues à New York en 81.
Vous avez votre accordéon ?
Ouais, je fais la manche avec une copine qui joue de la flûte, qui fait des contorsions.
Et vous pensez saltimbanque pour la vie ?
Oui.
C'est votre vocation ?
Ah mais c'est ma vocation, c'est-à-dire qu'en fait, moi je me voyais très bien faire le tour du monde avec ma petite valise, mon petit accordéon, et puis m'arrêter, faire la manche, habiter chez les gens, ici, là, voilà.
Pablo Pio Vivien, si je
il
vous demande
pas né.
Ce
non.
Que vous faisiez en 81, vous me direz pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Vous naissez dans les années 90 ?
Non, dans les années 80.
Dans les années 80 ?
À la fin des années 80, à la toute fin, en 89,
bon.
Juste avant la chute du mur.
Quand est-ce que vous venez au salon pour la première fois, désormais Festival du Livre de Paris ?
Ben aujourd'hui, en 2024.
C'est pas vrai, c'est la première fois ?
C'est la toute première fois que je viens. Non, j'avais fait le Salon du Livre Jeunesse à Montreuil.
Et maintenant, c'est fini.
Mais maintenant, c'est fini. Voilà, donc je vais y revenir maintenant tous les ans.
Vous allez directement, puisque vous êtes chroniqueur politique et patron d'une revue politique, Regard, vous allez directement au rayon livre politique ?
C'est hélas ce que je lis essentiellement aujourd'hui. Je dis hélas parce que j'aimerais avoir plus de temps pour lire des romans, lire autre chose que souvent de la prose un peu malhabile qui sont compilées dans des essais parfois un peu trop vite écrits.
Oui, parce que vous faites des chroniques dans la revue Regard.
Oui, exactement.
Vous chroniquez la
Il faut que je me tienne à jour, en fait, de l'état de la pensée politique. Et vraiment, je le répète, j'aimerais bien que les gens qui écrivent des essais essaient d'écrire un tout petit peu mieux qu'ils ne le font actuellement.
Vous pourriez lire la fiction de Bruno Le Maire ?
Non.
Bon.
Alors, pas du tout. Enfin, j'en ai déjà lu une,
oui.
Sur ses jours au ministère de l'Agriculture. C'était pas si mauvais que ça, hein. Je suis un peu dur. Hein. C'était même assez intéressant. Et pour le coup, la plume était assez, je sais pas comment on dit, joviale,
oui.
Et plaisante.
On a retrouvé un reportage sur ce premier salon. Je vous disais la date, 1981, quelques jours après l'élection de François Mitterrand. Écoutez ce qui est dit à ce moment-là. Et dites-moi, Lydie Salvert, Marie Nimier, ce qui a changé ou pas depuis, soit 43 ans plus tard.
Au moment où nos chères têtes blondes vont se plonger dans les livres, l'édition française lance un cri d'alarme. Et là, cela concerne les adultes qui boudent la lecture. Plus de 30% des maisons d'édition sont touchées par la crise. La production générale a baissé de 6% l'année dernière. Alors, le syndicat national de l'édition décide de lutter et annonce le premier salon du livre à Paris au mois de mai. François Clément, porte-parole de ce syndicat, au micro de François Gonnet.
À Paris, nous avons affaire à un phénomène qui est un peu particulier. Nous avons une très grande agglomération et il faut des très grands événements pour percer la zone d'indifférence. Si
voilà, c'est beau, percer la zone d'indifférence. Il fallait à l'époque, en 81, trouver des moyens un peu festifs de rassembler des gens autour du livre, tout simplement pour qu'ils achètent des livres. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est moins, Lydie Salvert, en contexte de crise ? Je le disais 43 ans après.
Mais des statistiques viennent de sortir, je crois,
oui.
Qui disent que les gens lisent moins.
C'est vrai.
Les vieux comme les jeunes, nous a fait remarquer Pablo, et pas seulement les jeunes gens.
trop de livres paraissent. C'est un des constats de cette enquête.
Peut-être aussi, oui, peut-être aussi.
On a multiplié par deux depuis 10 ans le nombre de livres, divisé par deux le nombre de tirages. Est-ce que vous trouvez, Marie Desmier, qu'il y a un petit peu trop d'offres pour le lecteur que nous sommes, les lecteurs et lectrices que nous sommes?
Non, je ne vais pas dire ça, non. Parce qu'on ne sait pas, dans ces offres-là, il y a peut-être un livre génial qui n'aurait pas été publié si on l'enlève aujourd'hui des... Donc, je ne vais pas dire ça, mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un auteur, c'est très difficile de vivre de sa plume. Moi, j'ai toujours vécu de ma plume. Et là, je vois qu'en effet, faire un très bon tirage, quand on a vendu 10 000 exemplaires, paraît-il qu'il faut être content. Avant, on en vendait facilement 20 000. Enfin, facilement. On pouvait en vendre 20 000 et c'était correct, quoi. C'est-à-dire que les petits moyens vendeurs vendent de moins en moins, les gros vendeurs vendent de plus en plus. On est comme dans le monde du spectacle, ou dans le monde de la musique aussi. Les gros sont gros et les petits de plus en plus petits.
Pablo, Pio Vivien, le marché de l'édition.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a une crise de l'édition, du marché de l'édition. Marie disait, aujourd'hui, il est peut-être un peu plus difficile de vivre qu'auparavant de sa plume et de ce qu'on écrit. En revanche, il n'y a pas de crise de la lecture. C'est-à-dire, effectivement, les gens lisent un peu moins sur des formats papier, et notamment les jeunes, mais ils lisent sur d'autres supports, ils lisent sur des tablettes, ils lisent sur leur téléphone portable. Moi, j'étais encore dans le métro pas plus tard qu'hier, et il y avait je les vois, ils lisent maintenant des mangas, et c'est très très courant, ils lisent des mangas sur leurs iPhones. Bon, bah c'est une façon de lire. Le problème, c'est comment, lorsqu'on lit par exemple sur des tablettes ou sur des téléphones portables, comment est-ce qu'on rétribue à sa juste mesure les gens qui produisent ces œuvres? Et là, c'est assez compliqué. Alors, ils ont eu une bonne idée, Emmanuel Macron a eu une bonne idée, c'est taxer le livre d'occasion. Alors là, j'avoue que je suis un peu sur le cul, en fait, que ce type d'idée, en fait, est germé pour essayer justement de répondre à cette question, qui est une question impérieuse, de comment est-ce qu'on rétribue les éditeurs, les auteurs, etc.
Il faut rappeler que les écrivains, quand ils travaillent, ne touchent pas d'argent, ou très peu.
Ils peuvent avoir des avances.
Ils peuvent avoir des avances, mais un jeune écrivain qui n'a pas le succès de Lydie Salvert ou de Marie Nimier n'a pas l'intermittence, contrairement aux comédiens.
Et moi qui suis plus méchante que tous les deux, je dis qu'il y a des livres qui pourraient très bien ne pas exister.
Oui, vous n'êtes pas d'accord avec eux.
Oui, il y a des livres de développement personnel dont on pourrait très bien se passer.
C'est drôle parce que vous en parlez dans votre livre.
Mais oui, c'est... et d'autres.
Ça aide des gens, Madame Salvert. Non, vous êtes contre.
J'arrive pas à croire que ça puisse aider, mais bon.
Marie Nimier.
Je pense qu'ils ne nous font pas concurrence, ces livres sur le développement personnel. Donc bon, voilà, tout peut exister.
Mais ça marche du feu de Dieu.
Eh bien, tant mieux pour eux.
Puis c'est comme ma grand-mère qui peint une peinture au fond de son salon. Elle a le droit de peindre. Oui, elle se prend pas pour Picasso, mais parfois elle se prend pour Picasso. Mais là n'est pas le problème. Mais ça ne pose pas, à mon avis, de problème, un problème central.
Pour les vrais peintres.
Pour les vrais peintres, exactement.
Vous avez vraiment une grand-mère qui peint ?
Non.
Bon.
Mais est-ce que vous avez regardé la liste des livres qui se vendent ? C'est atterrant.
C'est ça, les livres qui ne sont pas indispensables pour vous ?
Il n'y a pas de livres de littérature dans les livres qui se vendent. J'ai regardé par hasard la liste des livres qui se vendent. C'est l'affaire du pont de Ligonnès, des choses comme ça. Est-ce que c'est utile, franchement ?
Mais ça a toujours été comme ça. Enfin,
non.
Je veux dire, on lisait plus Eugène Sue que je ne sais pas quoi.
J'ai invité Pablo pour qu'on se fâche.
Alors déjà, dites-moi pourquoi vous invitez ce journaliste qui est très à gauche.
Parce que Rabelais disait qu'il y a des gens qui utilisent des mots gelés et d'autres des mots de gueule. Et je trouve que Pablo, il use, comme le conseil Rabelais, de mots de gueule.
Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire qu'il l'ouvre. Et souvent dans des émissions où il n'est pas forcément... où il ne déclenche pas l'unanimité.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est venu comment, votre conscience politique, je le disais, très à gauche, Pablo Pio Vivien ?
C'est arrivé un peu plus tard que beaucoup de mes camarades de gauche avec qui j'ai l'habitude d'évoluer. Moi, c'est arrivé plutôt... Après mon premier boulot, c'est assez simple, je ne supportais plus. Je suis parisien, je suis né à Paris. Et tout d'un coup, j'ai vu des gens dans la rue qui commençaient à me... Des enfants qui commençaient à faire la manche et à me demander de l'argent. Mmh. Et en fait, cette situation m'est apparue absolument insupportable. Je n'avais pas les moyens de la régler, ayant juste 23 ans. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible, je vais pas continuer à être consultant ou lobbyiste et à faire n'importe quoi et à juste accumuler de l'argent pour moi-même. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est parti, on va maintenant s'engager à gauche, puisque j'ai l'impression que à gauche, nous sommes les seuls à essayer de, d'apporter une solution à ces problèmes qui sont si importants dans notre monde et dans notre société.
On sent que vous avez l'habitude du micro et de la rivalité avec d'autres débatteurs.
Mais je préfère débattre avec vous qu'avec Sarkozy.
Oui, mais ça vous permet de vivre.
C'est vrai.
Lydie Salvert, vous écrivez « Depuis toujours, nous aimons les dimanches ». C'est un livre, je le disais, plein de fureur, de colère. Livre en soi politique, mais qui en appelle aux poètes, aux auteurs, aux chercheurs. Votre colère porte sur celles et ceux qui nous dirigent d'une manière générale et qui poussent les Français au travail, c'est-à-dire à la rentabilité, permettant toujours plus de profits. La rebelle que vous avez coutume d'être, dit aux décideurs, parce que ce livre, au fond, est une adresse, « Laissez-nous paresser le dimanche ». On parle de ce livre avec vous, on parle du livre de Marie Nignier, « Confidence tunisienne », et on continue de parler avec Pablo Pio-Vivien dans un instant. Je voudrais qu'on écoute un musicien qui a provoqué aussi chez vous un jour l'envie d'écrire un livre en 2011. Le livre, c'était, et c'est toujours Hymne, c'est Jimi Hendrix. Je me suis demandé, on parle de colère et de rage, s'il n'était pas un frère de colère, Lydie Salvert.
Oui, il rageait contre la guerre au Vietnam, il rageait contre le statut des Noirs, et il essayait de convertir cette rage en musique avec des accords de guitare qu'il arrachait quasiment avec les dents, et il a fait une musique absolument extraordinaire.
Qu'est-ce qui a déterminé l'envie profonde d'écrire sur lui, ou sur sa musique, ou sur sa révolte?
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Oui, c'est toujours fascinant pour nous qui n'écrivons pas.
Oui, je sais plus bien. Je devais écouter à l'époque Hendrix souvent, et je me suis plongée sur sa vie, qui est terrible, hein, qui est terrible. Une mère qui est alcoolique, qui l'abandonne, un père un peu rigide, etc. Une vie. Et il survit grâce à la musique.
Il chante Fire sur scène, entre autres. Vous vous souvenez ce qu'il fait à la fin de sa prestation?
Il brûle sa guitare.
Oui, ça doit vous plaire aussi.
Oui.
Est-ce que vous brûlez votre ordinateur, vous le jetez par la fenêtre quand vous avez fini un livre de colère?
Non, l'ordinateur, jamais. Non.
Sacré saint ordinateur. Eh bien, on écoute sur France Inter, dans le grand atelier de Lydie Salvert, au Festival du Livre de Paris, Jimi Hendrix, Fire.
Next to your fire.
Lydie Salbert, depuis toujours, nous aimons les dimanches et votre dernier opus paru au Seuil, ce qu'on appelle entre guillemets la valeur travail quand on la place avant le bonheur des gens. Voilà quelque chose qui vous irrite profondément, qui vous révolte même. Et je parie que quand vous avez entendu le Premier ministre Gabriel Attal en janvier lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, eh bien, vous n'avez pas forcément très bien réagi. Écoutez.
Au risque de décevoir certains ici, personne ne demande un droit à la paresse dans notre pays. Aussi, nous engagerons après l'été une nouvelle étape de la réforme du droit du travail avec un objectif clair, libérer nos TPE et nos PME, simplifier considérablement leur quotidien et leur permettre de négocier certaines règles directement, entreprise par entreprise.
Entreprise par entreprise, décider ou non, par exemple, du travail le dimanche. Qu'est-ce que ça provoque, là, cette fois, après Jimi Hendrix, je vous posais la question, en vous, Lydie Salbert?
Mais une indifférence et une surdité à ce qui se dit partout sur la condition du travail, énorme. Alors que des chercheurs, des sociologues, je pensais à André Gorz, par exemple, qui disait si tout le monde travaillait moins, et jusqu'à un âge relativement pas vieux, il y aurait un partage du travail pour tout le monde.
Relativement pas vieux, vous me regardez, vous voulez dire la cinquantaine, c'est ça?
Mais par exemple.
Par exemple.
Et d'autres, mais des sommités économiques qui ont fait des calculs très savants pour dire qu'on pourrait travailler moins si le travail était justement réparti. Mais il y a des gens que ça gêne et des gens qui nous veulent le nez au travail et bien soumis à la tâche et ne faisant pas de vagues.
Marine Inné, vous avez peut-être lu le livre.
Plutôt deux fois qu'une, j'adore ce livre. Ouais.
Travailler plus pour gagner plus, c'était le cas sous Nicolas Sarkozy. Produire davantage, c'est pas simplement sous Emmanuel Macron. Hein. C'est contraire à un idéal de vie terrestre et c'est ce que démontre, entre autres, Lydie Salbert. Qu'est-ce qui vous a... Parce que je vous vois sourire et avoir un peu les yeux joyeux.
Ouais.
Qu'est-ce
qui vous a... Oui, parce que c'est un livre...
Qu'est-ce qui vous a plu ?
Très pétillant, très... Alors j'adore parce qu'il y a un narrateur et puis il y a l'écrivaine Lydie Salbert qui est dans les coulisses du livre. J'adore ce rapport entre le narrateur et l'autrice. J'ai trouvé ça absolument délicieux. Et puis il dit mine de rien beaucoup de choses dans ce tout petit livre, beaucoup de choses très importante en effet sur le travail et sur la paresse. Maintenant, je me reconnais pas tellement parce que je suis une grosse bosseuse et que j'adore travailler, mais évidemment.
Mais la paresse, ça n'est pas ne rien faire.
Voilà, c'est là où on peut dire que il y a deux sortes de travail dans le livre de Lydie Salbert.
Lydie Salbert travaille aussi, mais elle a une curieuse façon de travailler. Vous m'autorisez à le dire, Lydie Salbert. Il y a quelques années, je suis venu chez vous faire une émission qui s'appelait L'Atelier et vous m'avez dit montons dans mon bureau. Et nous sommes arrivés dans votre chambre. Je n'ai pas le droit de le dire, vous faites signe qu'il faut que je me taise. Mais non, puisque c'était passé à la radio à l'époque. Bon. Parce que le bureau de Lydie Salbert, c'est sa chambre, c'est son lit. Vous avez l'ordinateur sur les genoux.
Et la bibliothèque sur le dessus.
Et la bibliothèque qui est là. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois le lieu de la détente, du plaisir, et le lieu du repos, de la quiétude, et le travail. Vous avez vraiment mélangé les deux.
Inséparable. Il devrait l'être inséparable. Le travail et le plaisir de faire, le plaisir d'avoir un objet, le plaisir de la finalité, ça devrait être possible, et certains l'ont dit. Or, on est dépossédé, quand on est souvent un travailleur salarié, du résultat de son travail, on n'en tire aucun plaisir, et c'est infiniment triste.
Est-ce que vous êtes paresseuse ?
Alors, si la paresse, je le redis, ça n'est pas ne rien faire. C'est faire ce qui n'est pas... productif au sens de la société marchande. Il y a tout le reste, c'est jardiner, c'est écouter la pluie tomber, c'est goûter au plaisir d'être, c'est s'occuper des autres, c'est méditer, c'est converser, c'est lire, enfin c'est mille choses.
Et pourtant, c'est un défaut quand on vous dit tu es paresseux. On dit ça aux enfants, ne sois pas paresseux.
On a tellement inculqué depuis la moitié du XVIIIe siècle que le travail était central, qu'il fondait la société, que c'était un devoir moral, une obligation sociale, on l'a tellement intériorisé que du coup, la paresse est condamnable. Ce qu'on appelle la paresse, mais qui n'a pas été de tout temps condamnée du reste.
Qu'est-ce que vous disiez quand vous étiez psychiatre pour enfants, Lydie Salbert, à des parents qui disaient « Je viens vous voir parce que mon fils est tellement paresseux ou ma fille est tellement paresseuse. » J'aimerais bien savoir ce que vous pouviez dire.
En tout cas, je ne prescrivais pas de Ritaline. C'est une horreur.
Pour les endormir.
Mais Non, la ritaline, c'est pour les enfants qui sont
agités
dans la lune.
Agités dans la lune.
Et c'est une grosse pratique aux États-Unis, ce qui fait des addictions monstrueuses. On ne supporte pas qu'un enfant prenne son temps, rêve, et alors qu'en rêvant, la pensée peut survenir.
C'est vrai que je vous ai déjà entendu dire à des mères, ne t'inquiète pas si ton fils ne lit pas encore, je le sens éveillé, ça viendra. Et effectivement, il y a un moment, on ne sait pas pourquoi ça venait.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pablo Pio Vivien, est-ce que vous avez lu le livre de Lydie Salvert? Vous lui avez envoyé?
Bien sûr.
Oui. Et alors, cette idée de la paresse, comment vous l'entendez-vous? Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'énerve beaucoup aussi, et qui peut-être ne conçoit pas la paresse de la même manière que Lydie Salvert.
Non, c'est vrai, à titre personnel, pas du tout. Moi, je suis plutôt comme Marine Nuit, j'ai plutôt tendance à travailler et à aimer
et
le travail.
Aussi,
mais après, oui, exactement. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ce dont parle Lydie, c'est quelque chose qui est très profond, en fait, dans notre société. Et Lydie a un peu tendance à renvoyer à la droite ceux qui mettraient au centre le travail. Mais c'est aussi une problématique de la gauche. Lorsque vous écoutez les communistes, notamment, depuis plus de 100 ans, les communistes, ils font du travail le centre, en fait, de notre société, la façon dont chacun va pouvoir s'intégrer. Et même, ils font du travail la possibilité aussi de s'émanciper collectivement. Alors, c'est là qu'il y a une tension, parce que le travail aliène autant qu'il émancipe. Et donc, il faut trouver les voies et moyens pour que, précisément, mais Lydie le dit très bien, pour que les conditions de travail de chacun et de chacune puissent permettre la jouissance, le plaisir et même éventuellement la paresse à l'intérieur même du travail. Et moi, ça résonne avec ce que raconte Stanislas Guérini. Vous savez, quand là, ils ont décidé, Stanislas Guérini, c'est le ministre de la fonction publique actuelle. Et ils ont décidé d'attaquer les fonctionnaires et de dire, ouais, les fonctionnaires, faut pouvoir les licencier. Oui, de toute façon, qu'est-ce que c'est que ce statut à vie? Ça sert à rien, etc., machin. Et précisément, le fonctionnaire, il est dans plus ou moins dans ce que raconte Lydie. C'est-à-dire qu'il remplit une fonction, en fait. Il ne remplit pas, il n'est pas payé à la tâche, en fait. Il a un statut, il a un salaire qui est à vie, et il est censé, non pas pouvoir être remplaçable, mais pouvoir divaguer, en fait, pour mieux remplir la fonction qui lui a été donnée par un concours.
On va écouter Jean d'Ormesson, vous connaissez cette archive très belle, où il parle, lui aussi qui travaillait beaucoup, où il parle de son plaisir de dormir énormément et de paresser. Écoutez-le, c'est dans les années 60.
Eh bien oui, je dors beaucoup et peut-être pas assez. Je trouve que c'est commode de dormir et puis agréable, et puis que ça permet d'oublier beaucoup de choses, et particulièrement quand on est malheureux, je le dis d'ailleurs, dormir c'est tout à fait exquis, parce que ça vous fait sortir de ce monde où on a quand même beaucoup d'ennuis.
Et vous dites aussi, entre le sommeil et la paresse, c'est peut-être encore à la paresse que je décernerai la palme.
Ah ben, la paresse, c'est merveilleux, parce que on abandonne les choses, n'est-ce pas? On abandonne le monde.
C'est le sommeil dans la conscience, dites-vous.
Voilà, mais en s'en rendant compte. Bon, moi, je crois que c'est quelque chose d'exquis de se dire qu'on a à écrire une lettre à des amis ou qu'on a un travail à faire et de ne pas le faire en disant qu'on préfère volontairement laisser les choses se faire toutes seules ou bien peut-être par les autres.
C'est joli de dire c'est exquis. La paresse, on n'entend plus beaucoup, on ne se permet plus de dire ça,
non.
Par vous, dans votre livre.
Ah, mais non, il y a des éloges de la paresse, il y en a plein.
Oui, mais le salarié n'ose pas prononcer
pas
des mots comme ça.
C'est pas l'idée courante,
c'est
bien
pas
sûr.
L'idée courante. Il y a, dans votre manière de décrire, par exemple, dimanche, je rappelle que le titre, c'est « Depuis toujours, nous aimons les dimanches », une grande sensualité. Vous parlez de ce temps de repos comme d'un temps de répit qui appelle le plaisir.
Bien sûr, oui, le plaisir, la douceur, l'indolence, bien sûr.
Le corps se détend, l'esprit se vide.
Oui.
Marie Nimier, il vous arrive quand même de vous arrêter. Est-ce que le dimanche est un jour férié pour vous?
Disons que pour moi, ça va mieux maintenant les dimanches, mais pendant longtemps, c'était quand même le mauvais jour de la semaine. Et d'ailleurs, la radio France Inter était souvent là pour m'aider le dimanche, parce que c'était un jour noir, comme dans les chansons.
Je hais les dimanches.
Comme dans, ou Sombre dimanche, encore pire, de Damien, chanté par Damien. C'est le jour qui renvoie à l'enfance, au repas de famille, à des choses un peu pour moi lourde. Et maintenant, ça y est, je respire le dimanche comme tous les autres jours de la semaine.
Vous avez atteint le lâcher-prise. Plus on voit votre plume, plus on lit vos bouquins, Lydie Salvert, on vous voit prendre, je le disais tout à l'heure, le chemin de la contestation, du combat. J'ai d'ailleurs pensé, en lisant ce livre, à votre ami Don Quichotte. Parce que vous lui ressemblez de plus en plus. Vous vous en prenez aux hommes du CAC 40, aux patrons, aux managers, à ceux qui veulent toujours plus d'argent. Et les mots choisis sont un peu comme les pauvres armes que manie notre Don Quichotte.
Mais j'aime la littérature à coups de marteau. C'est pas à la mode du tout. J'aime les écrivains satiriques. J'aime les écrivains qui sont frontaux. J'aime aussi, évidemment, hein, Marie qui travaille, elle, dans l'allusion, dans le détail, dans l'infime. J'aime autant. Mais personnellement, je suis plutôt séduite par les satiristes qui, depuis Rabelais, justement, que je citais pour Pablo, en passant par Jonathan Swift et Voltaire et Chamfort et mille autres, ont eu une parole lapidaire, qui va droit au but, qui dit, qui fait mal. À coup de marteau, disait Nietzsche. J'aime bien ça.
Tiens, Nietzsche, il est cité aussi le plaisir de prendre son temps.
Et il disait que le travail était la meilleure des polices. Il disait ça. Il disait un peuple de travailleurs, c'est un peuple qui ne bouge pas, chacun à sa tâche. Et ça l'inquiétait, évidemment.
Marie Nimier, vous avez rencontré des hommes et des femmes en Tunisie, après avoir rencontré des Français et des Françaises. Il y avait eu un livre en 2019, si je ne m'abuse, qui s'intitulait Confidences, et voici au pluriel Confidences tunisiennes. Il y a chez vous une sorte de passion, peut-être pas de l'autre, mais de la parole de l'autre. Vous vous mettez en quête de parole, vous mettez des petites annonces, ou vous dites à la radio, voilà, je vous reçois à tel endroit. D'ailleurs, c'est très ritualisé, votre manière d'écouter les autres. Vous mettez dans un petit coin, par exemple, dans un café, ça a été le cas en Tunisie, et vous avez un foulard bleu. Vous tenez à des rituels.
Il faut absolument un rituel, parce que il faut une protection. Alors moi, je suis pas psychiatre, je suis pas prêtre, je suis autrice, et je dois avoir un cadre. Alors le cadre, c'est la règle du jeu, c'est le lieu et la règle du jeu. La règle du jeu, c'est venez me raconter une histoire, une petite histoire, quelque chose, venez me confier quelque chose que vous allez peut-être pas souvent raconter à d'autres, pas forcément un secret, peut-être quelque chose d'infime, peut-être quelque chose de très important. Et moi, je réinventerai cette histoire, disons, en vous cachant, en vous dissimulant. On ne va pas vous reconnaître, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être reconnu, mais j'essaierai de prendre la sève de cette histoire et d'en faire un monologue, d'en faire une nouvelle.
Oui, parce que très souvent, c'est J.E. qui raconte.
Souvent, surtout en Tunisie, en effet, j'ai respecté vraiment, alors j'ai décalé les histoires pour que l'anonymat soit respecté, mais on est à la première personne. Donc on rentre dans le vif de la personne, de l'âme humaine.
Et souvent, ce jeu vous dis-tu, à vous, Marie Nimier ?
Oui, m'adresse, mais oui, absolument. En plus, surtout en Tunisie, on ne vous voit pas les gens, donc c'est tout de suite tu.
Qu'est-ce qui change en Tunisie par rapport à la France ? Est-ce que les confidences sont différentes ? Est-ce que les thèmes abordés sont différents ? Est-ce que la manière de raconter et de se raconter diverge ?
Oui, alors en Tunisie, les gens restaient avec moi ou me parlaient au téléphone. Ça se passait. Il y avait aussi mon numéro de téléphone sur les petites annonces. Donc, à n'importe quel moment de la journée, je pouvais avoir quelqu'un qui me téléphonait et qui me disait « Voilà, je voudrais vous raconter quelque chose ». Et souvent, ça durait une heure, deux heures, trois heures. En France, les confidences duraient 10 minutes. Et voilà. Et en plus, en France, bon, j'avais un système, parce que je ne voyais pas les gens. On était vraiment très séparés. Alors qu'en Tunisie, c'est pas comme ça. On prend le thé. Les gens souvent m'apportaient des gâteaux, quelque chose du jardin, on partageait quelque chose à manger. Donc on était beaucoup plus ensemble. Mais quand même, la règle du jeu était la même. Je ne suis pas là pour écouter votre vie. Ne me racontez surtout pas votre vie. Racontez-moi une chose qui traverse votre vie ou une anecdote.
Et il s'y tenait ?
Plus ou moins.
Qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous rejetez ?
Je retiens ce qui fait écho. Écho avec les autres confidents, écho avec ce que je peux ressentir du pays, écho avec mes questions, ma propre écriture. Voilà, c'est pas forcément les grandes choses, c'est souvent les toutes petites choses.
Si vous invitez Marie Nimier, Lydie Salvert, c'est que vous avez été touchée par le livre. Il y a quand même 56 histoires.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez d'une en particulier ?
Mais je me souviens de l'histoire du paresseux.
Ah, oui, racontez-la.
Mais c'est Samir, il s'appelle Samir, hein, Marie ?
Enfin, je l'ai appelé Samir.
Il s'appelle Samir.
Anonyme.
Il a une très haute fonction. Il dirige, je crois,
une boîte d'informatique qui marche très bien. Ouais.
Et il décide un jour de tout larguer et de marcher, de déambuler, de s'occuper de ses filles, de revivre. Et il va finir par être artisan.
Il va ouvrir une petite boutique où il va vendre des bougies pour illuminer le monde.
Voilà. Et en fait, non, mais ce qui m'a rassuré de trouver un paresseux.
Oui. Oui, c'est ça.
Mais ce qui m'a intrigué dans son témoignage, dans son récit, c'est que il me dit je suis arrivée à mon travail comme tous les jours, et puis d'un moment à l'autre, j'ai décidé que c'était fini. J'ai dit à tout le monde, j'ai réuni tout le monde, venez tous à 15h dans la salle de réunion, et j'ai dit voilà, je m'en vais. Il est rentré chez lui, il a pris tous ses costumes, ses cravates, ses chemises, et il les a mises dans des vieilles valises. Il me dit dans des vieilles valises, sinon ma femme, elle n'aurait pas compris. Il a mis les vieilles valises sur le trottoir, il y en avait une qui ne fermait pas, et il a pris sa cravate, les cravates, il les a nouées, et il a fermé, et c'était fini d'un moment à l'autre. C'est cette chose-là que j'ai voulu mettre en lumière dans ce récit.
Pablo Pio Vivien ?
Oui, moi j'ai une question. Marie, est-ce que tu n'as pas peur de tomber sur des menteurs ?
Mais c'est très bien, les menteurs sont les bienvenus. Les menteurs sont les bienvenus. Tout ce que veut, c'est qu'on me raconte quelque chose. Si c'est un mensonge, pourquoi appeler ça un mensonge ? Si c'est une création, eh bien c'est ça qu'on a voulu me raconter. Et c'est ça que je vais prendre. Pour moi, tout est vérité. Puisque tout est fiction, puisque ce sera un livre. Enfin, je veux dire. Donc, ce qu'on me raconte et ce que j'écoute. Est-ce que j'ai aussi reçu des confidences par écrit. Et parfois, en effet, je me disais, tiens, c'est peut-être. Et alors ? De toute façon, moi, je prends cette matière, je réécris.
Il ne faut pas le lire, Confidence tunisienne au pluriel chez Gallimard de Marie Limier, comme un essai, quelque chose de sociologique. On est dans le romanesque.
Absolument, oui.
Mais ça dit très bien l'âme d'un peuple. Je trouve que par des détails minuscules, des allusions minuscules, tu arrives à dire sur un pays mieux qu'un atlas ou mieux qu'un gros livre documenté. C'est ça qui est beau sur la condition des femmes, sur la condition des homosexuels. Sur les mariages hors filles, c'est ça, sur toutes ces choses d'un pays qu'on connaît peu, et elle le dit, l'air de rien.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'air de rien, oui, c'est ça, c'est le contraire de la satire. On est dans l'air de rien.
Vous réussissez même à avoir des confidences intimes et d'ordre privé et sexuel.
C'est quand même même en France, c'était beaucoup ça.
C'est le dossier premier, c'est ça, c'est en haut de la pile, la sexualité. Par exemple, un bisexuel qui souffre là-bas, qui vous l'exprime. Et puis, il y a des histoires plus légères que d'autres.
Oui, par exemple.
Racontez-nous le limbago sexuel.
Ah oui, le limbago, oui. C'est un kiné, ça, qui me raconte ça, qui dit, ben moi, en fait, les hommes qui viennent me consulter, c'est parce que, ils ont une façon de faire l'amour assez dominatrice, disons, et ils se coincent entre L3 et L4. Alors il me montre L3 et L4 et il dit voilà, il faut mettre de l'air entre L3 et L4. Il leur donne un peu des conseils pour faire l'amour de façon peut-être plus douce, et en fait il voit revenir le type la semaine suivante parce que
je peux me permettre de lire 3-4 phrases. Effectivement, il leur conseille d'être allongé, donc d'avoir une façon de faire l'amour différente, et il dit, sous votre plume, « Il n'aime pas l'idée d'être passif, enfin ce qu'ils appellent passif, allongé sur le dos. Il faut qu'ils possèdent leur partenaire. Ils ont besoin de la dominer. » Alors moi, écrit Marie Limier, je me dis tout bas, « Domine, petit soldat, domine. Et après, prends rendez-vous avec ton kiné.
» C'est vrai que c'est des petites choses comme ça, délicieuses, que je peux mettre en lumière. Alors, il m'a parlé de beaucoup d'autres choses. Voilà ce que j'ai gardé.
Il y a aussi, et j'ai envie de le raconter, puisqu'on est dans ce registre sexuel, le type complètement obsédé. Cet homme qui vous dit, voilà, je suis allé voir des prostituées quand j'étais jeune, qui vous raconte un peu ce qu'on fait souvent dans ces pays où la sexualité n'est pas libre. Et vous vous rendez compte qu'il a joui. Et vous êtes extrêmement, d'une certaine manière, horrifié, en colère, et vous ne dites rien. Et votre texte dit aussi le silence de Marie Limier à ce moment-là.
Oui, alors c'est vrai, par rapport au silence, je change un peu, parce que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Par rapport au silence, je m'interdis de poser des questions, ou très peu de questions. C'est-à-dire que j'ai l'impression que déjà poser des questions, c'est connaître les réponses, ou en tout cas, c'est attendre des réponses. Et mon intérêt, je n'attends rien, tout est intéressant. Tout vient à moi. Ça rejoint la paresse, ça rejoint Lydie Salvert et son magnifique livre. C'est être là et laisser les choses venir vers moi. Ce qui adviendra, adviendra.
Lydie Salvert, un commentaire peut-être à, à ce qui vient d'être dit. Donnez-nous peut-être encore envie de lire Danse tunisienne.
Mais moi, j'ai retenu des choses tellement intrigantes. L'amour pour Marie Nimier,
qui a les mêmes initiales que Marie Nimier.
Oui. Et qui cuisine les mots. J'ai adoré ça.
Ça, c'est une femme qui me parle de Marine Diaye et de son amour pour la langue française, qui est quand même une langue que nous partageons, les Tunisiens et nous, parce qu'ils ont une très, très belle, très bel amour pour la littérature française aussi. Et elle me parle de Marine Diaye et de son livre La Chef, qui lui a redonné l'appétit. Et elle, en parlant de Marine Diaye, elle parle de l'identité aussi, de la question de l'identité qu'elle trouve complètement débile, quoi. C'est-à-dire qu'elle dit l'identité, c'est avoir envie de se lever le matin, c'est ce qui nous porte, c'est notre désir, et c'est pas notre couleur de peau ou notre. Et on va s'arrêter de parler.
Non, on s'arrête pas. Pablo veut intervenir. Non, oui. Pio Vivien, mais il va y avoir un 10 dans 30 secondes. Ça ira 30 secondes pour vous.
30 secondes, c'est parfait. Non, parce qu'en fait, en écoutant Lydie et Marie, je me dis vraiment, il faut que je me mette aussi à la littérature, oui. À ma modeste mesure.
Mais oui.
Et parce que je vois que vous
comme écrivain
de dire le monde. Oui.
Ah oui.
Mais oui, comme écrivain. Bon, Lydie dit que tout le monde ne devrait pas écrire, mais moi, je pense le contraire. Mais parce que, en fait, elles ont une façon de dire le monde qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante que la mienne ou. Moi, je suis encore plus brutal et plus satirique que Lydie. Moi, je suis vraiment dans un rapport à la réalité qui est presque pornographique et vulgaire. Alors que vous, ce que vous en dites, à mon avis, est plus proche de ce que moi, je voudrais dire du monde. Donc, moi, je me dis que je vais m'y mettre.
Attendez 40 ans, continuez un peu le journaliste.
Non, on ne peut pas attendre trop longtemps, sinon, d'un moment, on crève, on ne sait même pas pourquoi.
On va écouter Cat Power sur France Inter dans le grand atelier en direct du Salon du Livre, non, du Festival du Livre de Paris. Cat Power qui reprend du Dylan, notamment cette chanson « She Belongs to Me ».
Ça veut dire
« She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. Got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. Start out standing proud, steal her anything she sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique.
Power, she belongs to me, ce qui veut dire, Lydie Salvaire. Elle m'appartient. Elle est à moi.
Elle ne parle qu'espagnol.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Je reviens à cette idée du travail et de l'excès de travail. Au Japon, on meurt de trop travailler. Est-ce que vous pensez que nous aussi, les Occidentaux et les Français, on pourrait mourir de ça ?
De fatigue, d'épuisement, bien sûr. Et je dis souvent que j'ai vécu avec un père maçon, que ça brisait vraiment, vraiment. Qu'il y avait des tendinites épouvantables, qu'il ne pouvait plus lever un bras à la fin à force de soulever des charges lourdes. Et je ne supporte pas qu'on me dise que dans ces conditions-là, le travail soit émancipateur. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et dans l'hôtel où je loge de temps en temps quand je viens à Paris.
Oui, parce que vous habitez le Gard.
Oui. Les dames qui font le ménage, elles ont 4 chambres. Je parlais encore avec elles ce matin. En une heure. C'est exténuant. Mais c'est exténuant. Et ça, on ne veut pas le voir parce que les gens qui prennent les décisions ne savent pas ce qu'est le travail. Ils n'ont jamais été. C'est ce que disait Simone Veil. Elle était allée en usine. Elle s'est autorisée à parler. Mais les autres, ils ne savent pas. Ils occupent des postes, ils sont là-haut, ils savent rien.
Avant la réforme des retraites, il y a
Je m'emballe.
Non, mais vous avez raison, comme dans vos livres. Il y a eu une femme politique, Sandrine Rousseau, qui a exprimé à peu près la même chose que ce que vous venez de dire, Lydie Salvert.
Oui, un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime, mais même avant, j'ai envie de vous dire. Après avoir travaillé de manière solide, sérieuse, et en fait, moi je suis très fâchée d'entendre que le gouvernement demande des efforts à des gens qui en font déjà énormément et qui en font pour tenir jusqu'à la retraite, parce que leurs corps sont douloureux, parce que ils sont exposés à des risques psychosociaux, des burn-out, une perte de sens, ils ne comprennent plus pourquoi ils se lèvent le matin, et en fait ils tiennent jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'est aussi la récompense de ce travail et d'avoir donné à la société. C'est la gratitude de la société. Nous n'avons qu'un seul corps, nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'une planète. Et nous sommes en train de tout détruire là.
Réaction de Lydie Salvert à ces propos de Sandrine Rousseau. C'était il y a un peu plus d'un an.
Je voudrais juste rappeler que, avec la mondialisation, il y a 160 millions d'enfants qui travaillent. Avec des heures abominables et des chômeurs dans des pays occidentaux. C'est là que c'est la folie. Des gens qui travaillent bien, bien trop, et d'autres qui souffrent de ne pas avoir de travail. C'est là qu'il y a quelque chose à régler, et c'est ce que tous les chercheurs en sciences sociales disent, qu'il faudrait une répartition, c'est peut-être utopique, mais une répartition plus juste du travail, simplement.
Pablo Pio Vivien.
Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le médiateur justement de cette répartition, c'est le marché, ou dit autrement, ce sont les capitalistes. Et que eux, ils choisissent celui qui est le moins cher.
Bien sûr.
Si c'est l'enfant de l'autre côté du monde, ils prennent l'enfant.
Bien sûr.
Et il est là, le problème, c'est qu'il faut...
Bien sûr qu'il est là.
Tout à l'heure, Lydie, tu disais un truc intéressant, tu disais les femmes de chambre. Les femmes de chambre, effectivement, aujourd'hui, elles ont parfois... Elles ont du mal, en fait, à se mettre en groupe et à lutter collectivement. Parfois, elles y arrivent. Rachel Keke, par exemple, elle a organisé dans le nord de Paris, maintenant elle est devenue députée. Elle a organisé dans le nord de Paris, dans un hôtel Ibis, elle a organisé une lutte pendant 18 mois, une grève, justement, contre Accor Hôtel, et à la fin, elle a obtenu gain de cause. C'est-à-dire que là, justement, elle a réussi à trouver la force collectivement, elles ont toutes
mais
ces femmes de chambre réussi
faire.
Collectivement à trouver la force de renverser un rapport de force qui normalement allait pas dans leur sens.
Alors Pablo, je rappelle, est journaliste à la revue, il dirige la revue, rédacteur en chef de la revue Regard, et puis il intervient sur la politique. Son rôle, c'est d'analyser avec son spectre d'homme de gauche. Vous, votre vocation et fonction, après avoir été psychiatre, c'est d'écrire. Vous n'avez pas envie de vous engager politiquement au sens premier du terme. Est-ce que l'écriture, quand vous commencez un bouquin à partir d'une colère, c'est une manière de vouloir changer le monde? Est-ce que la démarche est politique?
Mais complètement, je crois que politique au sens arendtien du terme, pas politicienne en tout cas. Mais politique au beau sens du terme politique, oui. Dire dans le monde ses travers, ses difficultés, soulever des questions concernant le monde, essayer d'y répondre un peu avec d'autres, ça me semble une belle chose de la littérature.
Écoutez,
et c'est pas à la mode.
C'est pas à la mode, mais
non.
Vous vous en fichez.
Je m'en fous.
Je sais. Marine Imier, c'est aussi assez politique.
Ce projet des confidences.
Oui, que d'écouter des gens.
Oui,
et d'en faire un livre.
de laisser la parole, mais c'est ce qui est un peu tordu, peut-être, c'est de la retransformer, cette parole. C'est-à-dire, je ne dis pas, venez et on va vous entendre tel que vous avez prononcé les choses. Je pense que la littérature, la création, l'imaginaire peut nourrir ces paroles et les amener encore dans un autre endroit qui pourront peut-être aider à changer le monde. Ça, c'est utopie, ça.
Et puis, mais Lady Salvert.
Mais Voltaire, Rousseau, etc. ont amené la Révolution française. Là-dessus, tout le monde est d'accord, non?
Et alors, Lady Salvert amènera quoi?
Ce sont leurs écrits qui ont amené doucement. Mais bien sûr.
Le peuple de France aussi, hein, quand même, il a un peu aidé dans cette histoire.
Oui, ceux qui...
Non, mais je ne les oppose pas. Je ne les oppose surtout pas. Voltaire et le peuple de France.
Surtout pas.
Sur le bandeau du livre de Lady Salvert, il y a écrit « Ne travaillez jamais ». Ça, c'est du Guy Debord, le fameux situationniste, ou c'est du Lady Salvert?
Non, d'abord de Rimbaud. C'est Rimbaud dans ses lettres à Georges Isambard.
Il est repris par Debord, si je ne m'abuse.
Il l'a repris en 1953.
J'ai bien lu mon Salvert. Oui. Alors, ne travaillez jamais, ça ne veut pas dire ne travaillez pas. C'est ne répondez pas. Essayez de ne pas répondre à cette demande. C'est assez utopique, d'ailleurs.
Bien que certains l'ont imaginé, un monde où on ne travaillerait plus, parmi lequel le fameux Keynes, qui était un libéral, économiste, et qui a prévu, mais à mon avis, c'est impensable, que bientôt, les hommes ne travailleraient plus sur Terre.
Est-ce que vous aimez votre époque, Lady Salvert?
Il y a des choses que j'aime dans mon époque. Mais là, elle m'inquiète ces temps-ci, l'époque.
Et vous aimez quoi?
Ce que j'aime... Mais les gens de mon époque, les arts de mon époque, la littérature de mon époque, il y a des gens que je défends bec et ongle.
Et vous, Marie Nimier, l'époque, est-ce que, en tout cas, elle vous donne envie d'écrire, ça c'est bien.
Oui. Oui, je sais pas, je me sens toujours un peu marginale, quand même, un peu à côté.
Ça, c'est votre position de Marie Nimier ou d'écrivaine?
Je sais pas, c'est ma façon de vivre. Je suis un peu décalée, je crois.
Mais c'est pas le propre de l'écrivain, ça, Lady Salvert. Vous, dans votre chambre du Gard, qui est certainement votre bureau, je connais pas cette chambre-là, vous êtes isolée aussi, finalement.
Bien sûr, mais Rimbaud le disait mieux, il disait qu'il était en exil.
Il faut lire...
Dans Charleville, ville supérieurement idiote.
Rimbaud, que vous citez souvent, que vous aimez, hein, c'est un de vos chéris, on l'a dit tout à l'heure, il y a Cervantes, il y a Rabelais dans la vie de Salvert, et beaucoup de poètes aussi, vous en citez, des poètes et des poèmes. Vous nous recommandez, puisqu'on est au Festival du Livre de Paris, un livre qui n'est pas d'aujourd'hui?
Les trois lettres d'Arthur Rimbaud à Georges Isambard, magnifique. Avec une intelligence, une fulgurance. Il dit, par exemple, je crois que j'ai pas le temps là.
Allez-y.
Il dit cette chose qui est devenue banale. Il ne faut pas dire je pense, il faut dire on est pensé. Aujourd'hui, c'est devenu courant de dire qu'on est pensé par la pub, par l'idéologie. Il le dit. 1870. Et ça, il a 15 ans.
Ça se trouve sur Internet?
Oui, bien sûr. Vous cliquez Internet, les lettres. Il parle du patriotisme. Je trouve ça extraordinaire.
Redites-nous le titre.
Lettre à Georges Isambard. Il y en a trois, gardées précieusement. Une de 1870, deux de 1871. Il a 15 et 16 ans. Il fait des fugues à Paris parce qu'il dit qu'il aime la liberté libre. C'est ça. Et c'est dans une de ses lettres qu'il dit à Georges Isambard, son professeur qui a 22 ans, travailler jamais, jamais.
Et ça devient un bandeau chez Lady Salvert. Pablo, je vais être un peu pervers, est-ce qu'en 42 secondes, vous pouvez donner un conseil de lecture? Parce que vous en avez quand même lu un de roman, notamment...
Non, mais il y en a, j'en lis quand même. Hein,
un Québécois, je rappelle que le Québec est l'invité du festival.
Exactement.
Du livre de Paris.
Moi, c'est un livre de Kevin Lambert au Nouvel Attila qui s'appelle Que notre joie demeure. J'ai lu ça, c'est sorti il y a quelques
décembre,
mois.
Il a eu le prix Médicis et le prix décembre.
Exactement. Et c'est ultra puissant. Je ne m'attendais pas de la part de cet auteur que j'avais déjà lu et qui était dans une littérature un peu de niche. Moi, ce que j'appelle la littérature homosexuelle, où il parlait de l'homosexualité. Là, tout d'un coup, il est un peu sorti de sa zone, on va dire, de confort. Oui. Il parle d'une grande architecte star qui a des problèmes dans sa ville où elle construit pour la première fois. Des problèmes, justement, sociaux, politiques. Il y a une rébellion, en fait, contre son projet. Honnêtement, c'est ultra puissant et ça dit quelque chose de justement de notre époque.
Marie Nimier, ce n'est pas un roman que vous nous conseillez, c'est une revue qui vient de naître.
Oui, bienvenue à la revue Aventure.
Aventure au pluriel.
Aventure au pluriel, oui. Qui est un mot aussi important que le mot paresse pour moi. Et qui est une revue dirigée par Yannick Hennel, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et qui, la première revue, la question qui a été posée à un nombre d'auteurs, c'est écrivez-vous des scènes de sexe? Et
ah,
on a une cinquantaine d'auteurs qui répondent. Et c'est une revue qui laisse une large place aussi à la poésie.
Très bien.
Donc, revue Aventure, c'est un joli objet.
Ça se trouve un peu partout?
Bon, je suis votre libraire.
Un peu partout, renseignez-vous, Aventure. Merci à tous les trois d'être
merci,
venus.
Vincent,
on vous applaudit.
Merci,
ne travaillez jamais. Ça, c'est Lydie Salbert qui vous le conseille dans son livre Confidence tunisienne au pluriel. Pablo, vous le retrouvez à la télé et vous lisez sa revue Regard. Et bientôt, il a dit, je serai Flaubert ou en rien.
Sûrement rien.
Non, 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 non.
Je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec moi, la réalisation. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. David Le Prince, Cléo Grisper, Frélon Le Cloc, Figaro Frélon Le Cloc, Antoine Larcher. Je pourrais citer aussi Louise Lemoine et toute l'équipe technique du Salon du Livre. Je me tourne vers Radio France, où nous attend une blonde que je connais bien, qui s'appelle Charline Bannonecker. Vous n'êtes pas tout à fait blonde, d'ailleurs.
Bonsoir, Vincent Josse et le public du Festival du Livre de Paris.
Ah, on n'est pas que tous les deux.
Bah non, écoutez...
Et vous recevez Abdal Malik.
Exactement. Et puis aussi, en live, il y aura un groupe qui nous vient des Pays-Bas, Donna Blue.
C'est le grand dimanche soir, dans un instant, après le journal de 18h.